BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Emmanuel Le Chip, merci d'être en studio avec nous, éditorialiste BFM Business, faut-il le rappeler. L'INSEE a publié des chiffres ce matin, c'est sûr que quand on les a vus, historique de la croissance en France, chute historique, plongeon incroyable de la consommation absolument sidérant, et puis aussi ce qui est inquiétant pour la suite, hein, c'est la baisse des investissements pour les entreprises. D'abord sur la croissance, ça veut dire quoi? Enfin, on sait ce que ça veut dire, mais ça veut dire...
Oui. Bon, alors déjà,
on est dans le W, UJ, dans la lettre de l'alphabet, on en est où?
Alors effectivement, déjà, c'est la pire performance depuis 49. Il faut rappeler que la deuxième pire performance, elle est pas très loin, c'est le deuxième trimestre de 1968, où la France avait été totalement en rideau, hein, pareil avec les grèves. Et le troisième pire trimestre qu'on ait connu, pour vous donner un ordre d'idée, c'était seulement moins 1,6%, c'était pendant la crise de 2009. Donc on est vraiment sur des chiffres exceptionnels, ce qui nous a un peu surpris. Alors, on avait déjà des anticipations, hein. La Banque de France avait dit moins 6%. Ce qui est quand même fort, c'est que si vous regardez le premier trimestre, on peut considérer qu'on a quand même sur 13 semaines qui composaient ce trimestre, on a quand même 11 semaines qui étaient quasiment des semaines normales, j'ai envie de dire, et 2 semaines de confinement. Et on fait moins 6% de baisse de l'activité. Ça veut dire que pendant les 2 semaines de confinement, l'économie française, elle a tourné à 60% à peu près de ses capacités. Donc, effectivement, avec sectoriellement les évolutions qu'on attendait un peu, c'est-à-dire que magasins fermés, donc consommation des ménages, les achats des ménages dans les magasins en berne totale, hein, moins 17%. Alors, il y a que la
17,9 hein, même.
Il y a que la consommation alimentaire qui s'en sort, parce qu'évidemment le fait que on fait beaucoup plus de repas à la maison, on fait aussi beaucoup plus de courses alimentaires. Mais par ailleurs, il y a l'activité, il y a la fermeture des restaurants, etc. La construction quand même, hein, qui fait plus de 10% de baisse. Donc là, on s'y attendait un peu. Et donc, ce sont des chiffres effectivement incroyablement spectaculaires. Et vous n'avez encore rien vu.
Voilà, c'était la question que j'allais vous poser, parce que je disais ce matin, je l'ai posé à Stéphane Richard d'Orange, à Guillaume Faury d'Airbus hier, chiffre trimestriel, mais en général, ces deux compagnies, mais c'est le cas pour les autres entreprises, janvier, février, c'était plutôt bon, le mois de mars, catastrophique, mais donc là, on n'aura plus les mois de janvier et de février pour vous lancer. Ouais. Donc là, le deuxième trimestre, c'est vraiment...
C'est très compliqué.
Oui, ça va être
si on fait un petit calcul, rendez-vous. Alors encore une fois, un petit calcul qui vaut ce qu'il vaut, mais si on considère que au cours du deuxième trimestre, il y a également 13 semaines. Si vous considérez qu'on va jusqu'au 11 mai, donc ça fait déjà 6 semaines de confinement. Donc si vous appliquez le même niveau d'activité à ces 6 semaines de confinement que celui qu'on a connu au cours des deux dernières semaines de mars, et que même si vous faites l'hypothèse qu'on retrouve après le 11 mai un niveau d'activité normal, ça vous fait une baisse du PIB d'au moins 13 à 15% déjà. Oh. Ce qui ne sera évidemment pas le cas. On ne retrouvera pas très vite un niveau d'activité normal. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas s'étonner que pour le deuxième trimestre, on ait un chiffre de baisse du PIB qui soit de moins 15 à moins 20%. Je dis bien moins 15 à moins 20%. Un chiffre incroyablement spectaculaire. Alors après, dans la deuxième partie de l'année, évidemment, on rebondira. Mais sur l'année, ça veut dire aussi, même si vous faites des 6-7%...
C'est des chiffres qu'on n'a jamais connus. Hein.
Jamais connus. Voilà, oui. Je crois que si vous regardez, pour vous donner un ordre d'idée, on parle de moins 15% de baisse en un trimestre. Le PIB de l'économie française en 1920, il était inférieur de 20% à ce qu'il était en 1913. Avec une guerre qui est passée par là. Donc imaginez.
Et donc sur plusieurs années, parce que on est sur 2-3 mois, quoi, je veux dire.
Oui, mais alors c'est ça qui change tout aussi.
Ah bon, alors.
Oui, parce qu'il ne faut pas se laisser terrifier par ces chiffres spectaculaires et catastrophiques. Parce qu'ils correspondent à la mise en rideau de l'économie, la mise en coma artificielle. Tout ça pour dire que quand on nous dit c'est la pire récession depuis 1929, c'est la pire récession depuis 1945, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai.
Pourquoi,
ça
pourquoi
peut le devenir.
Alors allez-y
ça
pourquoi.
Ça pourrait le devenir.
Ah, ça peut le devenir. Vous l'excluez pas.
Ce que je veux dire, c'est que
on
ça
y est pas.
Peut. Non, voilà, on n'y est pas.
On n'y est pas.
Parce que ce qui compte en économie, ce qui est le plus grave, c'est pas les récessions les plus brutales, c'est pas les accidents les plus violents, c'est les crises les plus durables. Je vous donne quand même un ordre de grandeur. Entre 2008 et 2012, la dette publique des pays de l'OCDE a augmenté de 40 points de PIB. 40 points de PIB. Là, on nous parle d'une crise qui, entre guillemets, ne nous coûterait que 10 à 15 points de PIB. Parce qu'après, on n'est pas dans le cas d'une crise financière qui paralyse les banques, qui a effondré l'immobilier. On est dans une pétrification de l'économie. Quand on va repartir progressivement, et en 2021, on devrait retrouver progressivement des rythmes d'activité normaux. Ça veut dire que ça peut le devenir si on gère mal le déconfinement.
Voilà, si... le point clé, il faut le rappeler, c'est c'est vraiment le déconfinement, il est important pour nous, évidemment, sur le plan sanitaire, mais pour l'économie française, c'est absolument crucial.
C'est absolument crucial parce que si on arrive à redémarrer et à retrouver progressivement une vie économique normale, sans y laisser trop de plumes, ça veut dire sans qu'il y ait trop de faillites, sans qu'il y ait trop de chômage, ça restera comme une crise extrêmement violente, mais ça ne restera pas comme une des crises les plus dures socialement de l'histoire. En revanche, si le déconfinement se passe mal, si on a des très mauvaises surprises sur le plan sanitaire que personne ne peut anticiper aujourd'hui, si l'État gère mal sa sortie de crise sur le plan administratif, sur l'assistance aux entreprises, si on débranche trop tôt les dispositifs, c'est ça qui va être extrêmement dangereux. C'est-à-dire que il faut faire, et c'est paradoxalement, c'est le paradoxe, c'est que plus l'État mettra le paquet à court terme, plus on ressortira vite de cette crise. Et c'est ça le paradoxe. C'est que si on ne mégote pas maintenant, à moyen long terme, cette crise nous coûtera moins cher que si l'État commence à mégoter sur les aides.
Ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup mégoté. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment mis le paquet. Ils ont été à la hauteur.
Absolument.
Alors maintenant, ce que vous appelez mégoter, c'est effectivement, et on en parlera dans un instant avec François Omeril, le président de la CFE-CGC, dont on sait qu'il y a une réunion à Matignon cet après-midi, justement sur les modalités de sortie, notamment du chômage
partiel. C'est ça qui va être crucial.
Alors c'est crucial, ils vous écoutent. Alors,
oui, c'est ça qui va être crucial parce qu'on voit bien que il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la gestion post-1er juin finalement, hein, même au-delà de savoir quand vont rouvrir les restaurants, quand vont rouvrir les hôtels, etc. Vous comprenez bien que cette économie du 1 sur 2 qui se dessine, c'est-à-dire une table de restaurant sur 2, un client sur 2 par rapport à d'habitude dans les magasins, etc., ça n'est pas une économie qui est viable. Non. Donc c'est une économie qu'il va falloir aider pendant longtemps. Tous les surcoûts liés à l'équipement.
C'est ce que demandent justement les entreprises
en
de plus en
voilà.
plus.
Ça, on ne le sait pas aujourd'hui. On n'a pas la réponse à ces questions-là. Non. Et c'est... Pardon. Et c'est de la réponse à ces questions-là que dépendra finalement l'état de santé dans lequel on sortira à la fin de cette crise. Et c'est là qu'on pourra faire les comptes et se dire, on vient d'essuyer la pire crise de notre histoire, ou bien ça n'était qu'une mise en
sous cloche voilà, de quelques mois,
et on arrive à repartir, parce qu'il faut le rappeler, le pouvoir d'achat il est quand même en partie là, sauf si on se rend compte que finalement le chômage augmente véritablement aujourd'hui. Pourquoi il y a un doute sur pourquoi les consommateurs sont extrêmement inquiets, c'est que vous avez quand même un Français sur trois aujourd'hui qui s'inquiète pour la pérennité de son emploi au-delà de cette période de chômage partiel.
Et effectivement, le chômage partiel, est-ce que ça va être transformé en licenciement, est-ce qu'il y aura beaucoup faillite, c'est un peu toutes les grandes interrogations. Vous avez raison, il y a de quoi s'en étrangler. En tous les cas, merci beaucoup Emmanuel Le Chip d'avoir été avec nous. Dans un instant, donc François Omeril, président de la CFE-CGC, rencontre à Matignon tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qui est important? On voit ça dans une poignée de minutes.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est le leader de la CFE-CGC des cadres, syndicat des cadres, François Omeril. Bonjour, merci d'être en direct avec nous de votre lieu de confinement. Ça ne va pas vous empêcher, dans tous les cas, de discuter avec le Premier ministre Édouard Philippe. On sait qu'il y a une réunion avec les différents partenaires sociaux. Le Premier ministre qui appelle au dialogue social, est-ce que vous recevez l'appel au dialogue 5 sur 5, François Omeril?
Oui, bien entendu, je reçois l'appel au dialogue. L'appel, c'est un bon début, hein. Je dirais. Moi, je pense qu'il faut réaffirmer que la question du déconfinement, qui évidemment est intimement liée avec la question du redémarrage économique, j'entendais par bribes votre débat tout à l'heure, la question d'aujourd'hui, c'est la question du redécollage économique des entreprises qui ont été extrêmement fragilisées par la crise et du chômage. perspective du chômage qui est devant nous pour faire suite au chômage partiel. Donc, pour faire face à une période aussi troublée, aussi grave en termes de conséquences, aussi profonde, s'agissant de la crise, il faut évidemment un dialogue social de très très haut niveau. Il faut que le dialogue social soit permanent dans les entreprises. C'est le cas dans toutes les entreprises qui ont redémarré. Ça a été possible parce qu'il y a eu un dialogue, il y a eu un travail en commun avec les représentants des salariés et les directions. Donc ce mécanisme doit se poursuivre et s'amplifier. Il ne peut pas se faire sans un dialogue social de très haut niveau.
Est-ce que vous diriez donc, les politiques, le Premier ministre le joue? Est-ce que dans les entreprises, les chefs d'entreprise le jouent? Et est-ce que vous, les syndicats, est-ce que tout le monde joue le jeu? Parce qu'on a l'impression qu'il y a notamment un peu la CGT qui joue une partition qui est assez différente de la vôtre.
Non, écoutez, vous le savez, je commente jamais les positions et les options de mes collègues. Moi, ce que je peux dire, c'est que désormais, depuis plus de 6 semaines, hein, que nous sommes quand même en interaction assez forte avec les pouvoirs publics, avec le gouvernement, sur ce sujet-là, tout le monde joue le jeu. Tout le monde joue le jeu avec, j'allais dire, ses particularités qui sont liées au caractère de chacun et puis avec sa sphère de représentation. Les problèmes, ils ont été nombreux. On a, nous, organisation syndicale, de notre côté, au niveau national, interprofessionnel, accepté, toléré un certain nombre de choses dont on nous a présenté comme étant des mesures d'urgence adaptées. Par ailleurs, il y avait des mesures qui étaient effectivement nécessaires et de bon niveau. Voilà, sans rentrer dans le détail, effectivement, on a eu un dialogue très très direct sur ce plan-là, mais il faut comprendre que dans les jours, dans les semaines qui viennent, eh bien, nous n'accepterons pas tous ensemble que certaines mesures qui sont présentées au nom de l'urgence sanitaire, eh bien, viennent s'installer petit à petit dans la durée, parce que on considère que ce ne sera pas une bonne chose.
Par exemple,
justement,
François Ombril. Donc, il y a des guides qui sont établis par le ministère du Travail. On sait que le déconfinement, donc, il y a des règles assez précises, hein, avec ces fameux guides. Est-ce que ça vous convient en termes de mesures sanitaires ou vous êtes inquiet sur certains points?
Non, les guides, c'est une très bonne chose. Moi, je veux saluer cette initiative que le gouvernement a prise. Il est allé au bout de son projet et je ne connais pas de branche professionnelle qui vous diront aujourd'hui que ce guide ne sert à rien, bien au contraire. Parce qu'il faut comprendre que toutes les entreprises n'ont pas la même taille, elles ne sont pas confrontées avec les mêmes moyens aux problématiques. Et donc, effectivement, c'est un support, c'est un soutien qui est vraiment très très important. Par contre, puisque vous me sollicitiez pour donner un exemple, le gouvernement, ces derniers jours, a pris une décision qui est de raccourcir le délai d'information-consultation pendant la crise. Moi, j'ai dit à plusieurs reprises que c'était une très mauvaise décision, parce que c'est une décision qui, d'une certaine façon, infantilise les organisations syndicales et justement le dialogue social dans les entreprises. Le délai d'information-consultation, c'est un délai nécessaire pour poser les bonnes questions.
Oui, mais il y a urgence.
Et pour la direction de trouver les bonnes réponses.
Oui, mais vous êtes d'accord qu'il y a un peu urgence, là, malgré tout. On n'est pas dans un temps normal.
Vous savez, on dit souvent à l'hôpital que dans les urgences, justement dans les services d'urgence, il est interdit de courir. Parce que une infirmière qui transporterait les flacons les plus précieux pour intervenir auprès de quelqu'un et qui se mettrait à courir et renverserait tout par terre ne serait pas d'une grande utilité vis-à-vis des personnes destinées à être soignées. On fait souvent beaucoup de bêtises au nom de l'urgence.
D'accord.
Moi, je pense que le caractère d'urgence de la situation ne nécessite pas forcément de prendre des décisions qui ne sont pas adaptées à la situation. Le gouvernement, par ailleurs, je veux le souligner, a pris des décisions importantes et courageuses, fortes politiquement. Le recours massif au chômage partiel, ça en fait partie. Mais il faut, sur un certain nombre de sujets, être relativement prudent et ne pas considérer que l'urgence doit nous amener à faire n'importe quoi, notamment en matière d'obligations et de contraintes à l'intelligence collective qui est nécessaire à se développer dans le dialogue social dans les entreprises.
Sur dernière question, le chômage partiel, parce que ça c'est un point de focalisation très très important, bien sûr, et c'est une principale mesure qui a été prise. Est-ce que le fait de maintenir le télétravail autant que possible au sein des entreprises, en tous les cas c'est le message qui est envoyé par le gouvernement, le fait d'avoir des horaires décalés, des plages décalées, est-ce que vous êtes d'accord?
Non, mais moi je suis bien sûr favorable à toutes les solutions qui sont négociées, qui sont intelligentes et qui permettent de gérer l'activité, la reprise d'activité, la remise en fonction des activités, de la gérer avec l'encadrement sanitaire le plus favorable. À ce titre, le fait de maintenir et de prolonger le dispositif actuel de continuation de l'activité à domicile, moi je n'y suis pas défavorable. Par contre, je ne veux pas qu'on appelle ça le télétravail. Ce n'est pas ça le télétravail. Le télétravail, c'est un travail codifié, organisé, via un accord qui permet de contrôler que les gens font leur travail à domicile et qu'ils ont toutes les conditions favorables pour le faire dans de bonnes conditions. Donc, moi, je prétends que quand on travaille chez soi, dans sa cuisine, avec autour de soi les enfants qui demandent, etc., avec un environnement qui n'a pas été prévu pour ça, et ben on ne peut pas appeler ça le télétravail.
D'accord, enfin, donc si on dit il faut poursuivre en télétravail, à ce moment-là, vous demandez un accord négocié avec les entreprises, enfin les syndicats patronaux, c'est ça que vous dites?
Eh bien entendu, moi je ne suis pas défavorable à ce que, entreprise par entreprise, secteur par secteur, on identifie des lieux, des moyens, des activités qui sont peut-être plus disponibles à être pratiquées en télétravail, mais il ne faut pas considérer que comme ça, d'un claquement de bois, quelqu'un qui était hier dans un bureau, dans un office, devrait continuer à faire tout, pour le reste de son travail, le travail chez lui.
D'accord, ok, ça c'est un point très important, François Omeril. Autre question, donc le chômage partiel, Muriel Pénicaud a quand même été claire, elle a dit à partir du 1er juin, les modalités du chômage partiel vont être sans doute un peu modifiées. Vous êtes vent debout contre. En même temps, est-ce qu'il ne faut pas faire que les Français, les salariés, rebasculent vers l'emploi?
Bon, il faut de toute façon que l'économie reparte. Voilà. Je pense que là-dessus, on peut tous être d'accord. Et pour que l'économie reparte, il faut qu'un climat de confiance, suffisamment de sérénité, soit aux environs environne le collectif de travail. Donc pour ça, il faut des moyens. Il faut que tout un tas de paramètres soient sous contrôle. Le paramètre des transports en Île-de-France, par exemple, en est un, mais il y en a d'autres. Et en donnant la date du 1er juin, chacun peut comprendre que le message qui est envoyé, il est de dire que le chômage partiel, il a été fait, c'est une décision politique relativement marquante, mais il n'a pas vocation à durer. Il faut évidemment trouver le juste milieu entre le moment où le chômage partiel deviendra l'exception, de façon à ce que le chômage réel...
Et c'est quoi le moment pour vous? Enfin, je veux dire, comment est-ce que vous voyez ça? Quels seront les critères, comme il va y avoir des critères de déconfinement, le critère sur le chômage partiel qui fera que vous vous dites, ben là, on peut rebasculer dans une situation plus normale?
C'est aux entreprises de le dire. C'est aux entreprises de le dire. Dans les entreprises, il y a un responsable, il y a un chef d'entreprise, il y a des salariés, ils ont des représentants. Aucun salarié ne pratique le chômage partiel par plaisir. Si aujourd'hui les gens sont en chômage partiel, c'est parce que soit on leur a interdit de pratiquer leur activité, il faut rappeler que c'est quand même le cas des commerces, des restaurants, de tout un secteur d'activité pour lesquels un décret a été pris pour interdire cette activité-là. Donc le jour où on reprendra l'activité, eh bien, on verra bien. Ouais. Mais pour d'autres, ils n'ont pas pu pratiquer leur activité, tout simplement parce que, s'agissant par exemple de certains chantiers de la construction, eh bien, le donneur d'ordre leur a dit « Non, je ne veux pas que vous veniez faire le chantier chez nous. » Et puis pour d'autres catégories de personnel, c'est parce qu'il n'y avait pas des conditions suffisamment sécurisantes pour pouvoir travailler.
Okay. Mais donc ça veut dire, par exemple, aujourd'hui, les modalités, vous le savez mieux que moi, c'est 84% du salaire net, 70% du salaire brut. Est-ce que vous dites il ne faut pas toucher, en tous les cas, à cette épure-là? Ou est-ce que vous accepteriez que les chiffres soient inférieurs?
Ben non, pas du tout. J'accepterai en aucun cas que les chiffres soient inférieurs. Les gens qui sont au chômage partiel dans les conditions actuelles ne le font pas sur leur propre volonté. Ils le font parce que les circonstances d'environnement sanitaire ou économique leur interdisent aujourd'hui de pratiquer leur activité. Personne n'est au chômage partiel par plaisir. Les gens, ils ont une double crainte. Aujourd'hui, ils sont en tenaille entre une double crainte. La crainte tout à fait légitime de devoir venir travailler dans des conditions sanitaires qui peut-être ne sont pas optimum, et la crainte évidemment de perdre leur emploi si jamais l'activité venait à faire faillite ou si était suffisamment menacée pour que l'entreprise faire des plans sociaux.
D'accord.
Donc, cette crainte, elle est au cœur même de chaque individu. Il faut l'arbitrer, bien entendu.
D'accord. Il y a un point important aussi, je pense que vous allez en discuter cet après-midi, c'est de savoir si ce coronavirus est une maladie professionnelle ou pas. Donc, il en est hors de question pour le gouvernement, sauf sur les soignants. Est-ce que vous voulez que ça soit généralisé? Maintenant, ça aurait un coût absolument considérable, non?
Je ne sais pas trop. La question du coût mérite d'être expertisée. Moi, j'ai fait la demande sur un certain nombre de secteurs, par extension à ce qui a été accepté et reconnu pour les soignants, que effectivement la reconnaissance en maladie professionnelle puisse être étendue. Mais je ne méconnais pas le fait que effectivement c'est assez complexe. Par ailleurs, nous avons historiquement à la CFE-CGC fait des demandes pour un certain nombre d'autres risques que nous avons au travail, notamment les risques psychosociaux. Donc on est dans une logique, que personnellement je suis tout à fait prêt à adopter. Attraper le coronavirus pour un certain nombre de professions, c'est un risque professionnel.
Voilà, pour certaines
et donc,
professions.
Ça n'est pas choquant de demander à ce que ce soit une maladie professionnelle.
C'est ça, mais c'est pas l'automaticité. C'est ça, vous comprenez que le gouvernement n'en veut pas.
C'est un risque. Ouais. Il est logique que ce soit une maladie professionnelle. Enfin, ouais. Pour moi, il y a une forme de logique entre les deux.
Encore deux questions rapidement. Réforme de l'assurance chômage, on sent qu'il y a toute une réflexion que ça bouge en tous les cas, que les lignes changent, qu'il y a une grande partie de la réforme de l'assurance chômage qui est pour l'instant suspendue, voire un recul. Est-ce que vous en félicitez ?
Non, moi je serais pour ma part très content quand la réforme de l'assurance chômage de l'été dernier aura été abrogée. Le gouvernement nous a vendu cette très mauvaise réforme au motif que les conditions économiques avaient changé depuis la crise de 2008 et qu'il fallait changer un petit peu les règles. Moi, je viens dire au gouvernement aujourd'hui, on est revenu dans des conditions bien pires que la crise de 2008, il faut abroger cette mauvaise réforme.
Ils sont revenus sur la dégressivité, en tous les cas, des allocations pour les cadres, puisque vous êtes le président de la CFE-CGC.
Non, elle est suspendue. Ouais.
Elle est suspendue,
c'était pas
c'est
la
ça
pire des mesures. Oui. C'était une mesure scandaleuse. Oui. Mais il y en avait d'autres. Cette réforme tapait sur tout le monde, toutes les catégories, y compris les plus précaires, et y compris ceux qui finançaient le plus sur leurs cotisations et leurs contributions. La solidarité intercatégorielle, tout ça,
on l'a déjà parlé. Oui, justement, une dernière question quand même. C'est un 1er mai qui va être très particulier pour les syndicats. Et donc, pour vous, François Omeril, comment est-ce que vous voyez ça? Ça va être un 1er mai virtuel ou un 1er mai, vous faites une croix dessus sur cette fête du travail?
C'est un 1er mai virtuel, ça c'est une certitude. Nous, à la CFE-CGC, il n'était pas ni dans nos coutumes ni nos habitudes de participer au défilé du 1er mai. Ça ne nous empêche pas d'être extrêmement attentif à tout ce qui touche le monde du travail sur cette date précise. Mais il n'est pas prévu, effectivement, cette année, qu'on en fasse plus ou moins que ce qu'on fait d'habitude à la CFE-CGC, c'est-à-dire, pour être franc, pas grand-chose.
Est-ce que, peut-être toute dernière question quand même, le dialogue social, on peut dire qu'au moins c'est une des vertus de cette crise si dramatique, c'est que ça a renforcé le dialogue social entre les syndicats patronaux, le syndicat de salariés, le gouvernement. Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là, en conclusion ?
Oui, ça a beaucoup renforcé les contacts, ça c'est vrai. Le dialogue social, c'est un contexte un peu plus large et un petit peu plus fin. Moi, je dois vous dire que, effectivement, j'espère beaucoup dans l'avenir. J'espère que les gens auront de la mémoire, qu'ils sauront tirer le meilleur parti de ce que nous avons appris et constaté pendant la crise, mais que j'ai quand même encore un peu quelques doutes, parce que la faculté de quiconque à oublier un petit peu les expériences structurantes est quand même très très forte. Et au-delà des discours, il faudra incarner tout cela de façon très opérationnelle et très respectueuse des prérogatives de chacun.
Merci beaucoup. Ça sera le mot de conclusion. François Omeril, président de la CFE-CGC. Et puis bonne réunion virtuelle, là encore, avec le Premier ministre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de l'heure H. Et dans 13h40, cette émission spéciale, bien sûr, autour de la décision très attendue de la Banque Centrale Européenne. Bonne journée.